ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Alors que la pilule contraceptive suscite de plus en plus la méfiance, certains hommes envisagent la contraception masculine. Mais où en est-on ? En France, la charge de la contraception repose en majorité sur les femmes. En 2020, seul 1% des consultations au planning familial concernaient des demandes pour de la contraception masculine. L'arrivée dans les années 1970 de contraceptifs médicaux féminins, comme la pilule, a marginalisé d'autres méthodes comme le préservatif ou l'abstinence. Aujourd'hui, les hommes ont tendance à utiliser le préservatif à l'entrée dans la sexualité, puis, en s'engageant dans une relation plus longue, le remplacent par des méthodes médicales féminines. Pourquoi ? D'abord parce que la contraception masculine est méconnue. Selon une étude récente, moins de la moitié des médecins généralistes et des gynécologues conseillent ce moyen de contraception. Ensuite, parce que la contraception masculine suscite des craintes chez certains hommes, notamment quant à leur virilité. Les mentalités évoluent cependant peu à peu. En août 2022, un collectif d'hommes a lancé une pétition appelant à la développer. Selon des sondages, environ 6 hommes sur 10 se disent prêts à prendre un traitement contraceptif. Des associations militent donc pour que les pouvoirs publics s'emparent du sujet pour promouvoir les méthodes existantes. Mais pour l'instant, gouvernement et parlementaires se montrent frileux. Signe que le changement prendra du temps.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2. C'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, on reçoit en studio un membre d'un collectif ariégeois, Apéro Contraceptif, qui travaille autour de la contraception testiculaire, de l'autonomie corporelle et du partage de la charge contraceptive. Un collectif qui s'inscrit dans une démarche pro-féministe, d'éducation populaire et qui cherche à rendre accessibles des pratiques longtemps invisibilisées. Questionner les masculinités, c'est ouvrir des espaces de discussion, de responsabilité et d'apprentissage. Pour nous en parler, je reçois Amaël. Bonjour, merci d'être au mag.
Salut.
Alors écoute, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous dire d'où tu parles ?
Oui, j'ai 33 ans, j'habite à Foix depuis quelques années, avant je suis passé par Toulouse. J'ai jamais été trop attiré par le désir d'avoir des enfants, et du coup depuis plusieurs années je me suis contracepté, je suis contracepté actuellement. Du coup en arrivant à Foix, j'ai participé à la création de ce collectif, pour qu'on parle en fait, pour qu'on visibilise la contraception testiculaire. À deux, on a monté un petit groupe et puis on a essayé de parler aux hommes qui voulaient bien nous écouter. Et puis, puis à force, le collectif s'est un peu étoffé et puis on fait nos petites activités régulièrement.
Ok, bah écoute, bonjour à Maël. Alors une fois n'est pas coutume, moi aussi je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Germain. Je suis un homme cis blanc de plus de 50 ans, j'ai une enfant et je suis vasectomisé. Alors j'ai dû regarder quand même comment ça s'appelait, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, vasectomisé, pour des raisons politiques depuis plusieurs années. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la contraception testiculaire et puis à t'investir aussi dans un collectif d'information militante.
Avant de me contracepter, je me sentais plutôt pro-féministe, en tout cas je m'intéressais, je soutenais la contraception féminine, j'essayais de discuter, de soutenir mes partenaires dans leur choix, enfin voilà, d'y penser en tout cas un petit peu, mais pas suffisamment parce qu'il s'est passé un événement, une amie, une amante qui est tombée enceinte et c'était potentiellement moi le père ou alors un autre garçon. On ne savait pas encore à ce moment-là. En tout cas, potentiellement, dans 6-7 mois, j'allais devenir père, alors que ce n'était pas du tout les plans. Je n'étais pas prêt, j'étais relativement jeune, hein, je ne sais plus, j'avais 25 ans. Il y a plein de sentiments qui m'ont traversé, voilà, des trucs positifs, des trucs négatifs. Ça a re-questionné mon désir de paternité ou pas. Il y avait la suite de la relation avec la personne. Bon, plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Au final, ce n'était pas moi le géniteur. Le bébé est né. Tout s'est bien passé pour tout le monde. L'enfant était désiré. Moi, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, du coup, je me renseigne et puis je découvre qu'il y a des méthodes qui sont réversibles, donc la contraception thermique. Et puis, je suis allé à une réunion de Garcon, donc c'est un collectif ici sur Toulouse qui parle de ces contraceptions-là. Et donc, j'ai discuté avec les gens et puis bah, je me suis mis à fabriquer mon jockstrap, donc mon dispositif contraceptif. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
C'est quoi la contraception thermique ?
D'abord, il faut savoir que la zone de production des spermatozoïdes, c'est à l'intérieur des testicules, à 35 degrés. C'est d'ailleurs ce qui explique que les testicules sont à l'extérieur du corps, parce qu'à l'intérieur du corps, la température, elle est à 37 degrés. Pour qu'il y ait un effet de contraception, donc pour qu'on stoppe la production des spermatozoïdes, il faut que les testicules soient à l'intérieur du corps. Comme les testicules sont à 37 degrés et non plus à 35 degrés, il n'y a plus de production des spermatozoïdes. Il n'y a plus de risque de grossesse.
Combien y a-t-il de dispositifs ?
Trois moyens. Le premier, c'est l'anneau. Il en existe de différentes tailles. Le principe, c'est de venir mettre l'anneau au niveau du pénis, de remonter la peau des testicules, qu'on appelle le scrotum, afin que les testicules soient à l'intérieur du corps. Le deuxième, c'est le slip. C'est le même principe, c'est un slip, avec un anneau. Et le troisième, c'est comme le slip, mais sans le tissu, ce qu'on appelle le jockstrap.
Combien de temps faut-il le porter ?
L'important, c'est de le porter 15 heures par jour, tous les jours. Si à un moment vous avez besoin de faire une pause au cours de la journée, il n'y a pas de souci, mais il faut bien respecter les 15 heures.
J'avais l'impression d'être déjà un peu intéressé à la question, mais en fait, je me suis rendu compte que pas du tout suffisamment. En fait, peut-être j'en faisais un peu, mais la preuve, c'est que j'en avais pas du tout fait assez à ce moment-là. Et donc, en tout cas, d'être acteur et d'être proactif sur ce sujet. Quoi.
On a une vision un peu théorique, un peu intellectuelle, puisque physiquement, évidemment, ça n'a pas de conséquences sur nos corps. La contraception dite masculine, c'est un impensé social. C'est évidemment lié à nos sociétés patriarcales.
Oui, et puis il a fallu un événement marquant pour que je m'y intéresse. Donc je ne savais pas que ça existait. On n'en parle pas, que ce soit les médecins, que ce soit les copains, que ce soit les parents. C'est vraiment l'inconnu. Alors même si ça se développe, depuis quelques années, il y a eu des reportages, même sur les grandes chaînes télévisées, sur Internet, il y a des petits documentaires qui sortent. Et donc là, maintenant, j'ai l'impression, en tout cas dans les milieux que je fréquente, ça se sait quand même que ça existe, la contraception masculine. Ça ne veut pas dire que les gens s'y mettent. On commence à en parler, mais ça reste un peu marginal. Et puis, les autorités et le monde de la santé en parlent aussi assez peu et même pas très bien informés non plus. Moi, quand j'ai commencé, du coup, il faut aller voir le médecin pour demander une ordonnance pour faire un spermogramme, pour vérifier les contre-indications, tout ça. Le médecin, il connaissait pas du tout la méthode, il savait pas ce qu'il y avait à faire, donc heureusement qu'il y a quelques médecins ou quelques professionnels qui donnent des infos sur Internet, qui expliquent les protocoles de façon scientifique aussi, mais non, c'est relativement inconnu.
On parle beaucoup de la contraception des madames, ça c'est une évidence, mais saviez-vous que pour les hommes, il y a également une contraception masculine ? Et on a trouvé autre chose, c'est pas la vasectomie, c'est pas le préservatif, il y a autre chose, comme on le voit avec Céline Liégeois.
Le but du jeu va être d'insérer à la fois la verge et la peau, donc le scrotum. Les testicules qui sont ici, en fait, vont se déplacer naturellement dans l'autre espace qui leur est dédié, qui est juste en fait à la racine de la verge.
La température augmente et freine la production de spermatozoïdes. L'anneau doit être porté 15 heures par jour, 7 jours sur 7.
Le process, c'est d'aller voir son médecin traitant pour faire d'abord un examen de sperme, voir s'il n'y a pas de petite pathologie urogénitale cachée. Si tout va bien de ce côté-là, on commence le protocole. Donc, au bout de 3 mois, vérification de la contraception. À partir de là, il est tout à fait possible de ne garder que cette méthode pendant au moins 4 ans, vu que ça a été validé officiellement sur 4 années.
Dans ce tutoriel, les hommes apprennent à réaliser un slip contraceptif inspiré du modèle mis au point par un médecin toulousain qui se basait déjà dans les années 80 sur la méthode thermique. Slip ou anneau, la méthode est réversible, efficace et recommandée par certains spécialistes si elle est utilisée correctement.
On peut vraiment encadrer le patient dans sa démarche, qui est au fait une démarche très positive et de société. Quoi. Ça fonctionne bien. Le seul gros problème, c'est l'observance. Il faut le porter 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et si on arrête de le porter pendant 2 jours, eh bien, la spermatogenèse se relance.
L'anneau compte aujourd'hui un millier d'utilisateurs dans le monde. La méthode reste confidentielle, mais lentement, elle permet d'ouvrir la voie pour que la contraception ne soit plus uniquement une affaire de femme.
On est très... préservé, hein, très déresponsabilisé. Comme tu es en train de l'expliquer, il y a tout un parcours, il y a un protocole à respecter, intermédiaire, médical. Ce premier relais, il est très peu formé. Je me demande ce que c'est un manque, de moyens, un choix idéologique, scientifique, voire institutionnel, parce que de toute façon, on ne peut pas faire sans pour l'instant. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça ?
Premier médecin que je suis allé voir, il m'a fait ma prescription parce que je lui demandais, mais en vrai, il s'en foutait, je sentais qu'il n'allait pas spécialement suivre le truc. Ça va encore parce qu'il n'a pas été réfractaire, parce qu'il aurait pu chercher à me dissuader, à refuser en fait de la prescription, tout ça. Choses qui peuvent arriver assez couramment. Bon, je ne viens pas du monde médical, moi, mais de ce que j'ai vu, il y a assez peu de formations pendant les cours qui traitent de la contraception de manière générale. Enfin, en tout cas, c'est un temps assez limité. Et de la contraception dite masculine, encore moins, tout au long de la vie professionnelle aussi des médecins peuvent avoir des formations, mais pareil, il y en a très peu, et puis c'est sur du volontariat aussi, donc il faut avoir conscience du truc, et puis se dire, je vais aller m'enseigner de ce côté-là.
Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quel scandale peut bien exister autour de la contraception masculine, puisqu'elle n'est même pas développée à l'échelle commerciale. Eh bien, c'est ça le problème. Et oui, si vous êtes un homme, vous n'avez peut-être pas eu beaucoup à vous préoccuper de la question de la contraception dans votre vie. Et si vous êtes une femme hétérosexuelle, en revanche, vous êtes forcément passé par là. Stérilet, pilule, implant, patch, on a l'embarras du choix, parce que dans la quasi-totalité des cas, eh bien c'est la femme aujourd'hui qui gère la contraception. Alors qu'un enfant, ça se fait à deux, non ? Alors pourquoi ce désert, ce néant ? Est-il vrai que les pilules pour hommes ne sont pas développées, car les hommes ne supportent pas les effets secondaires, qui sont pourtant les mêmes que ceux des femmes ?
Et puis, dans ce qui est appris, il y a une norme contraceptive. Le schéma classique, ça pourrait être préservatif sur les premières années de la sexualité, et puis après, c'est la pilule qui est proposée assez rapidement, et puis sur la vie de couple, grosso modo. Et une fois qu'il y a des enfants, on peut proposer le stérilet. C'est fini. Peut-être la ligature des trompes à la rigueur. En tout cas, c'est le schéma classique qui est proposé. Et puis, les à côté sont oubliés, quoi.
Ouais, carrément, c'est quasi exclusivement de la contraception féminine. Cette idée, je trouve, de manque d'implication quelque part du corps médical, je trouve ça hyper intéressant et questionnant, parce que ça peut créer des fragilités aussi sur la démarche en fait qu'on peut faire. Puisque face à toi, t'as quelqu'un qui a pas les infos, qui ça l'intéresse pas plus que ça en fait, il a pas la perception des enjeux, et je trouve que ça conteste aussi le savoir, et donc c'est aussi remettre un enjeu au niveau de rapport de pouvoir, et je pense que certains peuvent aussi le ressentir comme ça, parce que ça les met face à leur propre faille de connaissance. Et pire, ça peut être idéologique, parce que comme tu le dis, il y a un cheminement très traditionnel sur comment la pilule pour femmes arrive de manière automatique, en fait. Ouais.
Le patriarcat, il sera une réponse à chaque fois quasiment à la problématique de la contraception dite masculine. Les médecins, j'ai pas de stats, mais j'imagine que c'est encore un monde très masculin, et c'est quelque chose qui s'entretient, en fait. Et ils veulent aussi protéger la norme, que ce soit la femme qui se contracepte, et donc on continue à garder ce privilège de ne pas s'en préoccuper. Alors que la contraception était en partie prise en charge par les hommes avant l'arrivée de la pilule. Voilà, historiquement, père transmettait à leur fils leur méthode, leur façon pour ne pas avoir deux ou trois enfants par an. C'était quand même quelque chose qui se transmettait et qui ne passait pas par l'institution. Après, c'était malgré tout toujours aux femmes de gérer, c'est encore le cas aujourd'hui, si la fécondation a lieu quand même, donc c'était à elles de se débrouiller avec une tentative d'avortement ou alors aller jusqu'au bout de la grossesse.
Mais moi je pense que aussi ce que ça vient questionner, revoir les logiques où la fertilité masculine est sacrée. Mmh. La société patriarcale évidemment valorise et performe la virilité mais aussi la fertilité.
Et c'est un débat qui date des années 50.
Ce médecin présentait différentes alternatives contraceptives pour les hommes. La pilule en faisait partie, mais selon lui, sa généralisation n'était pas pour demain. Question de virilité.
Mais donner à des hommes quelque chose en leur disant « ça va supprimer votre fonction spermatogénétique, enfin ça va vous empêcher d'avoir des enfants », ils vont comprendre que ça va les rendre impuissants. Et je crois que c'est ça qui a empêché le développement de la pilule masculine.
On a toujours le même débat aujourd'hui.
Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que les hommes ne sont pas preneurs. Ça arrange tout le monde, ça arrange les hommes, que ce soit les femmes qui s'occupent de ça. Le patriarcat a ceci de magique pour les hommes, qui a cette espèce de main invisible qui fait que la contraception, voilà, on n'a pas à s'en occuper. On n'a pas besoin d'aller voir des médecins, on n'a pas besoin de prendre une pilule qui tord le bide. Et enfin, il n'y a pas eu d'impulsion politique qui serait à même justement de contrer ce manque de volonté des industries pharmaceutiques. Ils nous disent tous, à un moment donné, il manque une impulsion de telle et telle personne, de telle et telle organisation, que les choses peuvent rester gelées pendant des décennies, quoi. Un peu comme la question de l'égalité salariale, où on a l'impression que ça va mettre 200 ans pour qu'elle arrive, pour qu'on puisse l'atteindre. Sur la contraception, on a eu le sentiment que, voilà, ça fait 50 ans qu'on nous annonce la pilule masculine, ça fait 50 ans qu'on nous dit que les recherches avancent et que les tests sont probants et qu'il ne se passe rien.
Sur la vasectomie, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes outre-Atlantique ou alors même en Angleterre qui font des vasectomies. Et en fait, ça, c'est parce que c'est des différences de politique de santé. En Angleterre, c'est une toute autre politique qui existe, qui est moins nataliste qu'en France, déjà depuis 50 ou 60 ans. C'est en partie lié à la religion protestante qui est plus développée là-bas et qui est OK avec la contraception et l'avortement, contrairement à la religion catholique. En Angleterre, ils diffusent l'info à tout le monde, éducation sexuelle, tout ça. Donc tout le monde a l'info, toute l'info de façon officielle. C'est-à-dire qu'on parle autant de la pilule que de la vasectomie, que du préservatif. Et donc du coup, en Angleterre, il y a 50 fois plus d'hommes qui ont fait une vasectomie. C'est normal, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc politique.
Non, bien sûr, on voit bien qu'il y a une dimension idéologique. Là, Macron voulait repolitiser la natalité. Enfin, d'un coup, le ventre des femmes appartient à l'État et à la nation.
On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
C'est vraiment sidérant.
J'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme ça, que mes ovaires sont des grenades et que mon utérus est un champ de bataille. Utiliser un vocabulaire militaire pour parler de démographie, de la façon dont on fait des enfants, je trouve ça totalement hors de propos.
Le mot réarmement, il a du sens. Ça nous renvoie à une époque où on utilisait ce langage-là aussi pour préparer le pays à la guerre. Les politiques de la population comme arme de guerre.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. paraît que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
La loi de 1920 interdit et condamne lourdement l'avortement, interdit la contraception et interdit même en France tout discours attentatoire à la natalité, jusqu'à devenir sous Vichy un crime contre l'État puni par la peine de mort.